Nous lisons dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Au verset 24. En vérité, je vous dis, c'est Jésus qui parle, que celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous dis, que celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et dans plusieurs autres passages, dans 1 Jean 5, il est dit que nous sommes dans le véritable, nous avons la vie éternelle en son Fils, Jésus-Christ. Et dans Jean 3, 36, il est dit encore, celui qui croit a la vie éternelle. Je pense que le verbe avoir, nous pouvons mettre aussi à la place, possède la vie éternelle. Donc c'est quelque chose qui est dans la personne. Donc s'il a la vie éternel. Et il y a environ un mois, on avait prière d'intercession et j'étais fatigué. Et en criant à Dieu pour de la force, j'ai reçu donc le message suivant. Nous avons la vie éternelle. La vie éternelle, il faut imaginer que ce que c'est, on ne peut pas l'imaginer complètement, mais on m'a donné des images. Quelque chose que nous avons en nous qui ne finit pas. Remarquez la différence ici, on ne dit pas « aura la vie éternelle ». Parce que dans l'idée de beaucoup de personnes, la vie éternelle, c'est une vie qui commence après la mort. Ces versets insistent sur le fait qu'on a la vie éternelle, c'est maintenant. Donc celui qui croit reçoit la vie éternelle, il l'a maintenant. C'est aujourd'hui qu'il l'a. Ce n'est pas quelque chose qu'il aura après sa mort. La vie éternelle, ce n'est pas le fait de vivre après la mort. C'est quelque chose qu'on a dès maintenant. On a cette vie dès maintenant. Elle est en action dès maintenant. C'est vrai que la mort va libérer cette vie dans tout son éclat, parce que la chair que nous portons, le corps que nous portons, empêche cette vie de se manifester dans tout son éclat. C'est pourquoi la mort sera une délivrance. Ce sera un moyen qui ouvrira l'espace à cette vie qui est cachée dans le corps du chrétien. Donc nous avons la vie éternelle. Voilà la réponse qui m'a été donnée. Et je me plaignais pour recevoir la force. On m'a dit, mais tu as la vie éternelle. Bien-aimé, imaginez une pile créée pour ne jamais s'épuiser. Une pile éternelle. Donc vous allez mettre cette pile dans tous les appareils vont fonctionner toujours, sans s'épuiser. Et quand la pile réclame de l'énergie, on lui dit, mais non, toi tu es une pile éternelle. Pense à cette éternité, tu verras que ça va produire de l'énergie. Et voilà la réponse que j'ai reçue, bien-aimé. Quand j'ai reçu cette réponse, mon attitude a changé. Il y a la force qui est venue tout de suite. J'ai compris que nous avons en nous quelque chose que nous négligeons. Nous avons la vie éternelle. Nous nous prenons souvent comme des piles rechargeables, alors que Dieu dit que nous sommes des piles éternelles en nous. Nous avons l'éternité en nous, quelque chose qui ne finit pas. Une puissance de paix, de joie, d'amour qui ne s'éteint pas, qui ne finit pas. Je n'ai pas dit que ce n'est pas, c'est pas bon de prier le Seigneur pour avoir des forces. Mais ce jour-là, dans cette prière, on m'a rappelé tout juste le fait que nous avions la vie éternelle et la force du Seigneur était dans cette vie éternelle-là. Et que nous devions croire en cela pour vivre. Vous savez, il est écrit « Le juste vivra par la foi ». Donc il y a des choses qui nous ont été données, mais nous y accédons que par la foi. Il fallait qu'en ce moment-là, je croie en ce qu'est la vie éternelle. La vie éternelle est une puissance réelle qui est agissante dès maintenant et qui se manifeste en produisant la paix chaque jour, l'amour. Et qui a besoin sans cesse de la foi pour se manifester? C'est-à-dire chaque jour que nous lisons la parole, chaque jour que nous prions, nous manifestons la foi nécessaire à libérer cette puissance éternelle qui va agir pour nous donner la paix, la joie, la force de tous les jours. Et quand j'ai réalisé cela, que j'avais la vie éternelle, cette vie était inépuisable. J'ai eu la paix tout de suite et j'ai été fort. J'ai compris quelle grâce nous avons en tant que chrétiens. La vie éternelle, c'est quelque chose de puissant. Vous imaginez un morceau de sucre qui peut sucrer tout un lac. Vous mettez ça dans un lac, le lac devient sucré. Donc un morceau de sucre avec une puissance de sucrage éternelle. Vous mettez ça dans une casserole, ça sucre tout l'eau. Vous changez de casserole, ça continue à sucrer. Et lui-même, ce morceau de sucre, il reste toujours tel qu'il est. Mais il continue toujours à sucrer. Vous mettez ça dans un lac, il sucre le lac. Vous mettez ça dans un fleuve, il sucre le fleuve. Mais ce sucre-là, c'est quoi? C'est un trésor inestimable. Vous ne pourrez jamais dire, nous n'avons pas assez de sucre. Puisque ce morceau-là suffit à sucrer un lac, il suffit à sucrer un fleuve. Et tu le reprends, tu mets dans l'océan, il le sucre encore. C'est ça la vie éternelle. Les termes que je peux utiliser pour expliquer cette révélation, bien-aimée, c'est des termes liés à la physique nucléaire, alors je ne peux pas trop utiliser ça. Je veux me faire comprendre. C'est une révélation qui m'a transformé. Qu'on ait la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose qui viendra après la mort, c'est réel et que cette vie, elle est là, nous devons croire qu'elle va produire la force nécessaire pour toute chose. Nous ne devons pas nous dire, mais tiens, la pile a été utilisée 24 heures, est-ce que le lendemain la pile continuera? Mais on te dit, mais c'est une pile à puissance éternelle, donc Tu branches cette pile à tout appareil, elle va faire fonctionner l'appareil sans s'arrêter. Je crois que vous avez sûrement vu la pub de Duracell avec les lapins qui s'agitent là et on met d'autres piles à côté, les lapins ne s'agissent plus. Bon, mais imaginez maintenant une pile éternelle dont les lapins vont s'agiter tout le temps. Vous changez de lapin, c'est les lapins qui vont se fatiguer, la pile elle va toujours les agiter. Vous imaginez une telle pile, ben c'est ce qu'est la vie éternelle. Donc une pile qui ne s'épuise jamais. On va se dire, mais pourquoi on se fatigue alors? On se fatigue parce que nous avons un corps de chair. C'est le corps qui se fatigue. Mais la pile qui est là à l'intérieur, elle ne se fatigue jamais. C'est le corps, c'est la chair qui empêche cette pile de s'exprimer pleinement. Comme j'ai parlé de l'exemple des lapins. Donc vous mettez une pile éternelle. Ces lapins-là, puisqu'ils sont créés avec des matériaux physiques de la terre, ces matériaux finiront par se détruire à force de s'agiter. Ça finira par se décomposer, mais la pile, elle va continuer toujours à produire de l'énergie. C'est ce que la vie éternelle. Mais cette vie est masquée par un corps faible. Un corps de chair et a besoin, le jour de la mort, ce corps-là sera vaincu, détruit en quelque sorte pour que cette vie éternelle jaillisse totalement. Et Dieu va habiller cette éternité, et il va l'habiller d'un corps qu'on appelle glorieux, capable de laisser passer toute l'énergie. Qui peut tenir, c'est-à-dire dans le cas des piles Duracell et des lapins, ben ça sera des lapins qui sont capables de s'agiter aussi éternellement. Aujourd'hui, nous avons une vie éternelle en nous, mais nous avons un corps qui ne peut pas éternellement fonctionner. C'est le jour de la mort, Dieu habillera cette vie éternelle d'un corps qui peut lui aussi éternellement fonctionner. C'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. On a une vie éternelle capable de produire la paix, la joie, la puissance tout le temps. Mais on a un corps qui est incapable de transmettre, de laisser passer cette puissance, paix et joie tout le temps. Et ce corps a besoin d'être pressé. On va voir ça tout à l'heure. Premièrement, ce que nous pouvons apprendre aujourd'hui, c'est que nous avons la vie éternelle. nous avons, nous n'aurons pas, mais nous avons la vie éternelle. Et cette vie éternelle est semblable à une pile qui ne s'épuise jamais. Elle est semblable à un morceau de sucre qui ne fait que sucrer. Toute étendue d'eau qu'on lui donne à sucrer, toute étendue de lait qu'on lui donne à sucrer, ce morceau de sucre est capable de le sucrer et de la sucrer, tout en restant toujours morceau de sucre tel qu'il était. Vous imaginez combien sera vendu ce morceau de sucre? Mais les usines vont chercher ça. Puisque vous avez déjà l'aspartame, comment ça a rendu les laboratoires qui l'ont créé milliardaire. Cette molécule d'aspartame qui, avec un petit volume d'aspartame, nous pouvons sucrer des quantités que beaucoup de morceaux de sucre doivent sucrer. Mais avec des petits volumes juste d'aspartame, et ça les a rendus milliardaires. Maintenant, imaginez un sucre que tu mets dans ton thé. Le thé, il est sucré, mais le sucre, le morceau, il est toujours pareil. Donc, tu le gardes, tu attends encore un autre thé, tu mets. Et vous imaginez combien coûterait ce sucre-là? Ça sera un prix éternel qu'on ne pourra jamais payer. Parce que c'est un sucre qui, lui, ne diminue pas, mais il arrive à sucrer tout. Un lac, il peut sucrer. Un gobelet, il sucre. Et c'est ça la vie éternelle. Nous avons une puissance en nous qui peut fonctionner éternellement en produisant la paix, la joie, l'amour, la bonté, la bienveillance, le fruit de l'esprit. C'est ça la vie éternelle que nous avons reçue en Christ. Cette vie éternelle peut produire la guérison, peut produire la délivrance. C'est la puissance même de Dieu qui est en nous. C'est la vie même de Dieu qui est en nous, la vie éternelle. Nous devons prendre conscience de cela. Et lorsque nous sommes fatigués, découragés, pensez que nous avons la vie éternelle. Cette vie éternelle est plus forte que tout ce qui peut fatiguer la chair. Il est écrit, celui qui est en nous est plus fort, dans 1 Jean 4, que celui qui est dans le monde. Donc cette vie éternelle qui est Dieu même en nous, Dieu lui-même présent en nous, est plus forte, cette vie éternelle, que toutes les forces qui fatiguent la chair, qui nous amène l'incrédulité, qui nous amène le découragement. C'est ça la vie éternelle. Le Seigneur a dit aussi dans Jean 7, 38 à 39, Jean 7, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Jésus ne dit pas que la personne sera une sorte de canal pour les fleuves d'eau vive. Non, il dit que les fleuves d'eau vive couleront de son sein, donc ça partira de l'intérieur de la personne. Vous imaginez que vous ayez un seau d'eau qui produit des fleuves d'eau vive sans que le seau ne s'épuise. Le seau est toujours rempli, le bidon il est toujours rempli, mais dès que vous l'ouvrez, eh bien, ça sort de l'eau et ça produit des fleuves. Et le bidon est toujours pareil. Vous imaginez, c'est ce que nous sommes. On dit des fleuves d'eau vive couleront de son sein, donc à partir de son intérieur. C'est pourquoi on a chanté « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». Psaume 68, 29, c'est ce qui se dit. « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». Donc en nous, nous avons cette puissance éternelle, des fleuves d'eau vive, éternellement. Je relis « Celui qui croit », Jean 7, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Or, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Que Jésus soit glorifié, Jésus a été glorifié à la croix. Vous vous souvenez de Philippiens 2, il est dit que C'est quand Jésus s'est humilié comme un esclave que Dieu a élevé son nom au-dessus de tout nom. C'est à la croix que cette vie éternelle a été libérée. Le rideau du temple a été déchiré, le contact avec Dieu a été possible et nous avons reçu l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est lui qui produit les fleuves d'eau vive. Et ces fleuves d'eau vive ne vont jamais s'arrêter. C'est éternel. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on ouvre le bouchon du bidon, eh bien, le fleuve d'eau vive coule. Ça sort, et on ferme, ça s'arrête. On ouvre le bidon, ça continue à couler, et ça ne finit jamais. Ça ne finit jamais, parce que le Saint-Esprit lui-même est là pour produire éternellement ces fleuves d'eau vive. Voilà ce qu'est le chrétien. Quelqu'un en qui il y a des fleuves d'eau vive qui ne s'arrêtent jamais. Donc lorsque nous sommes fatigués, réfléchissons à cela. Disons que nous avons la vie éternelle en nous. Et personne ne peut arrêter cette vie éternelle. Parce qu'elle ne s'arrête jamais. C'est ça la définition d'éternité. Ça ne s'arrête jamais. Nous avons, Paul, maintenant nous allons lire le passage suivant dans 2 Corinthiens 4. Paul dit, c'est un trésor que nous portons dans des vases d'argile. Cette vie éternelle est un trésor, mais que portent des corps d'argile, que nous sommes des vases d'argile. 2 Corinthiens au chapitre 4. À partir du verset 5. Car nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ le Seigneur, et pour nous, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Car le Dieu qui a dit que la lumière resplendisse au milieu des ténèbres est celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Or, nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence de la puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Voilà ce que dit Paul. Quand on se sent fatigué, quand on se sent affaibli, on doit plutôt se dire, tiens, la puissance qu'on a en nous vraiment appartient à Dieu. C'est Dieu qui l'a produit. Parce que voici que mon corps en moi est fatigué. Mais ça ne veut pas dire que cette puissance-là est fatiguée. La puissance-là, elle est éternelle. Elle ne se fatigue pas, elle ne s'éteint point. Le diable va te faire croire qu'elle est éteinte. C'est faux. C'est la puissance, c'est la vie éternelle. Ça ne s'éteint pas. C'est quand tu perds la foi en cette vie éternelle que tu te sens aussi perdu comme éteint. Mais quand tu retrouves la foi en ce que Jésus a dit dans Jean 5, 24, « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Quand tu te souviens de ça, tu te dis, « Mais j'ai la vie éternelle. » Cette vie recommence à agir. Parce que tu as cru. À chaque fois, il faut croire. Jésus dit toujours, « celui qui croit a la vie. Celui qui ne croit pas n'a pas la vie. » C'est la colère de Dieu qui demeure sur lui. Donc c'est lié à la foi. Parce qu'on a tendance à vouloir justifier la force qu'on porterait, qu'on manifesterait, la puissance qu'on porterait ou qu'on manifesterait. On a tendance à vouloir la justifier par les efforts qu'on a faits, soit pour prier, soit pour lire la parole, soit pour manifester, faire des actes de bonté. Et Dieu permettra que, malgré parfois ces efforts-là, on se sente quand même fatigué, épuisé, afin qu'on reconnaisse que cette puissance ne vient pas de nous, ça vient de Dieu lui-même. C'est ça qui est merveilleux. Malgré le fait que c'est un trésor éternel, c'est un trésor puissant, c'est porté dans des vases de terre, afin que la gloire soit rendue à Dieu seul. C'est ce que l'apôtre nous dit. Un encouragement pour nous tous. Ne jamais oublier que nous avons la vie éternelle. Ne jamais oublier cela. S'en souvenir tout le temps. quand le diable veut t'entraîner dans le découragement, tu dois te souvenir que tu as la vie éternelle. De cette vie éternelle se dégagera des fleuves d'eau vive, de bonté, de puissance, de sainteté, d'amour, de pardon, de guérison et de délivrance. C'est la puissance de Dieu. La pile qui ne s'épuise jamais est en nous. Produite cette puissance par le Saint-Esprit qui est en nous désormais parce que Jésus a été glorifié. Bien-aimés, pourquoi pensons-nous qu'il a dit « Tout est accompli » ? Pourquoi pensons-nous « Tout est accompli » ? Dans d'autres versions, on ne dit pas « Tout est accompli », on dit « C'est fini ». Hein, c'est beaucoup plus simple. « C'est fini ». C'est réglé. Il a dit, il y a plus de 2000 ans. Pourquoi il a dit ? Parce que c'est poétique. Non. Jésus est la vérité même. Il ne peut pas dire de phrases à peu près. Non, c'est la vérité. Il a fini la chose. C'est fini, tout est accompli. Il a accompli, comme c'est écrit dans Éphésiens 2, il a accompli le travail qu'il devait accomplir et il s'est assis à la droite du Père, dans une position de repos, pas repos parce qu'il y a fatigue, mais repos d'achèvement. Il a achevé ce qu'il avait à faire, il s'est maintenant assis à la droite du Père. Donc ce qui devait être fait a été fait. Le diable voudra nous faire croire qu'on a encore à faire. Non, mais lui, il a déjà dit, c'est fini. Tout est accompli, nous avons la vie éternelle, nous devons tout simplement laisser Dieu exprimer cette vie éternelle. Quand nous invoquons le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il exprime cette vie éternelle qui est déjà en toi. Comme cette pile, si on la branche mal, même si elle est éternelle, elle ne va pas produire, il faut brancher les pôles comme il faut. Et tout cela se fait à travers la foi. Quand nous crions, Seigneur, donne-moi des forces, lui, il exprime cette vie éternelle qui est en nous. Parce qu'il a déjà tout fait. Souvenez-vous, quand Jésus-Christ quittait les apôtres, il a dit dans Matthieu 28, 18, « Tout pouvoir m'a été donné. » Une façon de dire, « Puisque tout pouvoir m'a été donné, je vous donne aussi tout pouvoir. » Tout pouvoir m'a été donné. C'est réglé maintenant cette affaire-là. Tout est accompli, c'est fini. Tout pouvoir m'a été donné et je vous donne ce même pouvoir. Vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Définitivement. Et quand Jésus parlait, il parlait des apôtres, mais il parlait de tous les chrétiens qui allaient venir. Nous avons reçu la puissance du Saint-Esprit pour être ses témoins jusqu'à ce que le jour, jusqu'au jour où la mort va être la délivrance totale. Quand la mort viendra, la chair cessera d'être le frein qui empêche la vie éternelle de s'exprimer pleinement. C'est pourquoi la mort est une vraie délivrance pour nous. Elle cessera, le corps, la chair cessera d'être le blocage, la couverture, le voile qui empêche la vie éternelle de s'exprimer pleinement. Vous savez, il y a certaines lampes qui sont formées d'une sorte de cruche dans laquelle on met une sorte de mèche, une flamme. Et quand on casse la cruche, la flamme jaillit complètement. On peut voir tout le feu, toute la lumière. Alors que quand elle est dans le récipient, ce feu-là, on voit mais pas trop clairement. Et la chair, c'est cela. Elle empêche de voir clairement la vie éternelle en nous. Parce que la chair va venir avec ses pensées de haine, ses pensées de convoitise, ses pensées de rébellion vis-à-vis de Dieu, ses pensées d'égoïsme, ses pensées de la logique des œuvres. On veut marcher par les œuvres. Toutes ces logiques-là empêchent la vie éternelle de se répandre puissamment. La chair, vous savez, par exemple, il y a des gens qui pensent que Dieu n'a pas suffisamment de choses. Quand il a beaucoup donné à quelqu'un, ils sont jaloux. C'est comme si Dieu ne peut pas et donner beaucoup à quelqu'un et donner beaucoup à eux. C'est comme si Dieu a une quantité limitée de choses et quand il en a donné beaucoup à quelqu'un, les autres vont en être privés. C'est faux. Dieu a une puissance éternelle. Donc quand on est dans la vraie attitude, on sait que ce que Dieu a fait pour A, il peut le faire x10 pour moi. Parce que c'est éternel. C'est éternel. Donc on ne peut pas être jaloux. Et quand on est dans cette attitude-là d'amour, de joie, quand on voit l'autre béni, eh bien, nous-mêmes, nous recevons cette bénédiction. D'ailleurs, il est écrit, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui aime voir l'autre béni, lui-même sera béni. Par contre, celui qui a l'impression que l'autre a beaucoup reçu et que ça le prive, lui, eh bien, est en train de diminuer la puissance de Dieu dans sa tête. Il manifeste l'incrédulité qui empêchera la vie éternelle de se manifester pleinement en lui-même, bien-aimé. Nous avons la vie éternelle, une puissance éternelle qui est en nous. Et Dieu veut l'activer par la foi chaque jour. Nous devons croire en ce qui est écrit afin que cette puissance se manifeste. Nous devons croire. Dieu, il utilise la foi pour activer la foi en la parole, pour activer cette vie éternelle. Prier aussi, c'est avoir foi en la parole. Quand on prie, ça veut dire qu'on croit en ce qu'on demande. On croit que Dieu va donner. Donc, on croit aux promesses du Seigneur. C'est pourquoi on prie. Donc, ça aussi, c'est toujours manifester la foi. Et cela produit cette vie éternelle, manifeste cette vie éternelle de l'intérieur à l'extérieur. On a dit des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Mais nous lisons la suite du texte de 2 Corinthiens 4. Ça va nous aider à comprendre une des manières que Dieu utilise régulièrement pour faire sortir cette vie éternelle. 2 Corinthiens 4. Donc nous étions arrivés au verset 7 qui dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence de la puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Verset 8. « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, en perplexité, mais non sans espérance, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non entièrement perdus. Nous portons toujours en notre corps la mort du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle, de sorte que la mort agit en nous et la vie en vous. Mais ayant le même esprit de foi, selon qu'il est écrit, « Je crus, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. » Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera comparaître avec vous. Car toutes ces choses sont pour vous, afin que cette grâce se multipliant abonde en actions de grâce d'un grand nombre pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons point courage. Et si notre homme extérieur se détruit, l'intérieur se renouvelle de jour en jour. Car notre légère affliction du temps présent produit en nous le poids éternel d'une gloire souverainement excellente, puisque nous ne regardons point aux choses visibles, mais aux choses invisibles, car les choses visibles sont pour un temps, mais les choses invisibles sont éternelles. Une des caractéristiques de cette vie éternelle, c'est qu'elle est invisible. Elle produit seulement les effets, comme le vent. Jésus a dit, le vent souffle. Tu entends le bruit, mais tu sais ni d'où il vient, ni où il va. Mais tu entends les effets du vent, mais tu le vois pas lui-même. C'est la même chose avec la vie éternelle. On ne la voit pas, mais on voit sa production, ses effets. Et c'est ce qui nous dérange souvent parce que nous ne voulons saisir cette vie éternelle comme un objet. On ne peut pas saisir le Saint-Esprit comme un objet. C'est le Saint-Esprit de Dieu en nous qui produit cette vie éternelle. Maintenant, comment Dieu sort cette vie éternelle? Je vous ai dit que la chair empêchait cette vie éternelle de s'exprimer complètement. Et que la mort serait le meilleur moment pour exprimer cette vie éternelle. Souvenez-vous, même notre Christ, c'est la mort qui a été le meilleur moment pour manifester sa puissance. Il a été glorifié par sa mort. Et c'est la même chose. C'est ce que Paul explique ici. Donc, la mort agit en nous afin que la vie agisse en vous. C'est-à-dire que plus nous mourons, plus la vie éternelle qui était cachée peut sortir pour vous toucher. Une comparaison simple, c'est une orange. Tant qu'elle est restée intacte sur la vitrine, bien décorée, elle fait boire personne. Elle est là, bien décorée sur la vitrine. Pour sortir le jus, qu'est-ce qu'on fait? on presse l'orange. Donc même si tu coupes l'orange en deux parties, ça restera comme ça, une belle décoration. Mais quand tu l'as coupé en deux parties, si tu veux sortir le jus, tu fais quoi? Tu presses l'orange et le jus sort. Et Paul dit, nous sommes pressés. Dans 2 Corinthiens 4, au verset 8, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Donc, tant que l'heure de notre mort n'est pas arrivée, l'heure de la délivrance totale, Dieu nous pressera sans produire la mort, mais il nous pressera pour sortir le jus, cette vie éternelle qui est en nous. Il nous pressera. Et c'est ce qu'il a fait à Job. Il a été pressé. Pressé, pressé. Et on a vu que la gloire de Dieu est sortie pleinement. Job a dit, oh, autrefois, j'entendais parler de toi. Maintenant, je te vois. Dieu va nous presser. Il va nous contrarier. Il va permettre des circonstances qui nous dérangent, qui nous gênent. Il a dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu mettais la ceinture, tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te mettra la ceinture et il t'amènera où tu ne voudras pas. Ben c'est ce que Dieu va faire. Il va t'amener où tu ne veux pas, afin que cette contrariété soit comme quelqu'un qui est comparable à quelqu'un qui est pressé. Donc tu es comme pressé, mais tu souffres quand tu es pressé. Mais en étant pressé, cela produit du jus. Et c'est ça que le Seigneur fait pour nous tous. À part le fait que cette vie éternelle se manifeste par la foi en la parole, en prière ou en lisant la parole et en mettant en pratique, cette vie éternelle va se manifester régulièrement par le pressage. Dieu va nous presser. Et comme pour sortir le vin, le jus de raisin, on presse toujours. On presse et ça sort. Et Dieu va nous presser. Nous presser, ça veut dire des situations qui nous dérangent, des situations contrariantes, des situations logiquement improductives. Donc Dieu va nous entraîner dans des projets, en pratique, qui seront apparemment improductifs. Et notre logique va se poser la question, mais oui, mais comment Dieu me fait perdre du temps comme ça, alors que j'aurais pu utiliser mon temps pour telle chose. Vous vous souvenez, Étienne, c'était quelqu'un qui était utilisé puissamment pour guérir les malades, délivrer. Et il a été utilisé puissamment pour sauver des sacrificateurs. Les sacrificateurs, ce n'était pas n'importe qui. C'était des gens enracinés dans la religion, enracinés dans l'orgueil. Mais Étienne a été utilisé pour convertir des sacrificateurs. Mais nous avons vu Étienne mourir très tôt. Beaucoup auraient dit, « Ah, mais on ne comprend pas. Étienne qui est efficace, c'est lui qui meurt. » Mais c'est inutile cette mort. On ne comprend pas comment Dieu agit. Quoi. Bon, alors qu'il y a certains chrétiens, peut-être qui viennent seulement manger la Sainte-Cène, qui sont là encore vivants, et Étienne qui bosse et qui meurt. Et c'est ça la logique humaine. On ne va pas toujours comprendre, mais tout ça c'est pressé. Dieu va nous presser pour sortir sa gloire. Il va nous presser. Il faut qu'on comprenne la technique de Dieu, le fonctionnement de Dieu. Quand on comprend le fonctionnement de Dieu, on est tranquille, on est en paix. Quand on ne connaît pas son fonctionnement, quand on est pressé, on ne comprend pas. On ne sait pas que la gloire est en train de sortir. Dieu va permettre des échecs. Il va permettre des circonstances qui sembleront nous être défavorables, mais qui au contraire sont en train de manifester, de construire la gloire que Dieu a mise en nous, qui va jaillir à cause de ces circonstances. Mais a priori, nous aurons l'impression que nous sommes défavorisés, déstabilisés, et dans la faiblesse, mais c'est fait exprès, c'est comme pressé. Donc il presse, et quand il presse, le jus sort. Et il est écrit au verset 11, au verset 10 plutôt. Nous portons toujours en notre corps la mort du Seigneur Jésus afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Donc nous avons besoin que la mort se manifeste à diverses doses pour permettre que la vie aussi se manifeste à diverses doses. Voilà la technique de sortir la vie éternelle, c'est par des morts. Plus tu connais des morts en toi, dans ta vie, plus la vie éternelle aussi se manifeste dans ta vie. Nous nous souvenons du fameux échange entre Paul et Dieu, non, sur sa guérison. Il a dit, j'ai prié 3 fois le Seigneur. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Voilà la technique de Dieu. Il va utiliser la mort pour sortir la vie. Jusqu'au jour où il y aura la mort physique définitive pour libérer totalement la vie éternelle. Pour l'instant, la vie éternelle, pour qu'elle se manifeste, elle dépendra de notre humiliation, des morts quotidiennes qu'on va vivre. Ce sont ces morts quotidiennes qui vont sortir la vie éternelle. Quand on a l'impression qu'on n'est pas écouté, quand on a l'impression qu'on ne nous comprend pas, eh bien, c'est en ce moment-là, disons, oui, moi on ne m'a pas compris, mais le Saint-Esprit se fera comprendre. La gloire, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais je parais avoir échoué, mais le Saint-Esprit, lui, n'échoue pas. Il va faire l'œuvre, il va continuer. Le diable nous dira, mais ça n'a pas marché, les gens n'ont pas suivi, les gens n'ont pas écouté. Nous, chrétiens, nous n'avons pas besoin d'avoir les preuves que ce qu'on a fait a produit. Nous devons croire que ce que Dieu a dit s'accomplira. Si on sème, on récoltera. Mais tout cela, ce n'est pas facile. Ça crée une sorte de choc à notre intelligence qui refuse de croire que ce qu'elle ne voit pas va s'accomplir. Notre intelligence a besoin d'éléments. Et Dieu prive à notre intelligence les éléments et ça nous déstabilise. Non, le but c'est que ça nous presse, ça nous déstabilise, ça nous agite afin que le jus sorte. Et quand nous voyons que les situations sont contrariantes, quand nous avons l'impression que c'est bloqué et que ça va demander des gros miracles, c'est en ce moment-là qu'on doit dire, ah, Dieu a créé ces instants-là afin que la vie éternelle se manifeste. Nous avons la vie éternelle. Je l'ai bien dit, la vie éternelle, c'est une puissance éternelle qui va se manifester par la joie, la bonté, l'amour, les miracles, les délivrances, les guérisons, les solutions à tout problème. Parce que c'est ça les prodiges et les miracles. Quand Moïse sortait de l'eau dans le désert, ce n'était pas des guérisons, c'était de l'eau. Les gens avaient besoin d'eau, l'eau était sortie. Les gens avaient besoin de manger, la manne est tombée. Et voilà. Donc ça, c'est tout ça, c'est la vie éternelle. Parce que Jésus dit, je suis le vrai pain, le pain de vie. Je suis la vie éternelle. Donc cette vie éternelle, c'est lui-même. Et c'est pourquoi il dit, tout pouvoir m'est donné. Cette vie éternelle peut tout produire. Mais il faut qu'on accepte les morts successives qui peuvent s'abattre dans nos vies chaque jour, dans notre façon de fonctionner. Bien-aimé, Dieu te conduira à aller visiter une seule personne, alors que tu aurais pu être utile à 10 000 personnes. Mais Dieu va te conduire à visiter une personne, la personne qui va te créer des dépenses même à travers la visite. Alors que dans ton esprit, tu t'attends à ce qu'en servant les autres, il y ait un retour. Mais là, tu vas servir quelqu'un qui va encore créer plutôt des dépenses encore dans ta vie. Et Dieu fait ça pour te contrarier, te presser, afin que la vraie vie jaillisse. Et tu vas voir qu'après avoir fait ça, beaucoup de personnes vont être touchés d'une manière glorieuse alors que tu ne leur as même pas parlé directement. Dieu est tout puissant, bien-aimé. Acceptons son fonctionnement. C'est ça, il va créer des morts et ces morts-là vont produire la vie. Verset 11, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. C'est écrit, sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ces morts-là peuvent être des injustices. Et la chair te dit, mais tu ne peux pas te laisser faire. Réagis. Et Dieu te dit, garde silence, je combattrai pour toi. Voilà. Ça fait la honte. Ça va te faire paraître comme quelqu'un qui n'est pas fort physiquement, fort intellectuel, qui n'est pas fort intellectuellement. Ça va te faire passer comme quelqu'un qui n'a pas de personnalité. Mais c'est la voix du Saint-Esprit qui t'a dit, laisse Dieu faire. Souvenons-nous des commandements du Seigneur. Quelqu'un veut te faire 1 kilomètre, tu en fais combien? 2. Parce que quand quelqu'un veut te faire 1 kilomètre, il s'impose à toi, allez, fais 1 kilomètre! Il dit, mais non, il me prend pour qui? Jésus a dit, ne réponds pas, fais-en même 2. Il y a un prétendu apôtre qui est venu me voir après l'intervention à la télévision. pour me prouver que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et il a sorti des théories fumeuses l'une, plus fumeuses, toujours et fumeuses encore. Et à chaque fois, je dis, mais ce que tu dis n'est pas écrit. Oui, mais il voulait me faire croire qu'il est comme Paul, il a rencontré le Seigneur, il lui a dit les choses ineffables. Moi, j'ai dit, mais non, nous, on écoute, on suit ce qui est écrit dans la Bible, comme des petits-enfants. Ah oui, mais la Bible est spirituelle. Donc là où c'est écrit femme, pour lui, ce n'est pas femme, c'est autre chose. Là où c'est écrit le manteau, pour lui, ce n'est pas le manteau, c'est autre chose. Là où c'est écrit le pain, pour lui, ce n'est pas le pain, c'est autre chose. Il faut comprendre, tout est spirituel. J'ai dit, ah, moi... Je comprends tel que c'est écrit, c'est là où c'est écrit femme c'est femme, le pain c'est pain. Je comprends qu'on peut tirer des enseignements spirituels, mais ce qui est écrit c'est déjà ça, c'est écrit, et ensuite on peut tirer des enseignements spirituels. Alors à un moment il me dit, mais voilà, voilà par exemple dans Ésaïe 53 on dit qu'on va faire asseoir Jésus avec les grands. Les grands là c'est qui? Moi j'ai dit je ne sais pas. Bien aimé, c'était ça le tournant de la discussion. Donc le monsieur n'en revenait pas que quelqu'un qui s'est dit pasteur lui dise je ne sais pas. Donc lui, pour lui, donc il croyait que moi j'allais commencer à faire des explications fumeuses comme lui, comme quelqu'un à la radio qui a voulu que je dise qui avait fait la fête de Cana. Vous connaissez les noces de Cana? Il appelle à la radio, pasteur, qui avait organisé les noces de Cana? Ce n'est pas quelqu'un... Pourquoi on est parti voir Jésus? Donc on veut faire croire que Jésus faisait partie des organisateurs. Moi je dis non, c'est écrit là-bas, Jésus a été invité. On a lu le texte, il a été invité. Les gens coincés, mais oui, mais qui a fait la fête? Dis-nous qui a fait la fête. Moi je dis, oh, mais je ne sais pas. Quand on dit, je ne sais pas, alors tu n'es pas sage. Ah, bien aimé, voilà. Donc c'est pour nous dire combien les gens sont déstabilisés lorsqu'on est faible. Et quand j'ai dit à ce fameux apôtre que je ne savais pas, il a été complètement déstabilisé. Parce que les gens cherchent quoi? À ce qu'on se défende, qu'on prouve qu'on sait, qu'on est fort. Maintenant, quand on leur dit qu'on ne sait pas, on est petit, eh bien, toute leur force est partie. Ils sont déstabilisés. On ne gagne pas toujours en tapant sur les autres. On peut gagner en avouant qu'on est faible, qu'on ne sait pas. Déstabiliser le monsieur. Il a failli même se fâcher, quoi, bien-aimé. Quand quelqu'un pense rencontrer une résistance, vous n'opposez pas de résistance. Matthieu 5, ne résistez pas aux méchants. Laissez Dieu combattre. C'est comme ça que la vie éternelle jaillit, bien-aimé. La vie éternelle jaillit lorsque le corps est faible, lorsque le corps meurt. C'est logique. Parce que la résurrection vient toujours après la mort. Lorsque le corps meurt, lorsque nous avons un verset capital pour dire ce que nous disons là, c'est écrit donc dans 2 Corinthiens 4. C'est pourquoi nous ne perdons point courage. Et si notre homme extérieur se détruit, l'intérieur se renouvelle de jour en jour. Il y a des gens qui ont honte d'être vieux ou de vieillir. Oh, j'ai vieilli, mais c'est une bonne chose parce que plus tu vieillis, plus tu t'approches de la mort, plus ton être intérieur se renouvelle chaque jour. Bien-aimé. Parce que quand tu vieillis, au lieu que Dieu te fasse porter les valises, il va envoyer des jeunes qui vont te porter les valises. Et bon, jeune frère, portez-moi le... Toi, tu es tranquille, tu es à l'aise. Est-ce que ce n'est pas mal? Quand on arrive quelque part, vu son âge, on dit, bon, est-ce que quelqu'un peut aller m'acheter le coca? Mais si tu es jeune, 14 ans, qui va envoyer qui? Allez, toi-même, cours, vas-y. Donc, moi, je ne vais pas me fatiguer. Donc, plus je vieillis, plus Dieu va envoyer des porteurs de valises. Donc, moi, voilà, c'est le repos. C'est ça la vie éternelle, bien-aimé. Donc, plus notre être est en train de se détruire, l'être extérieur, l'être intérieur devient de plus en plus puissant. Plus on va connaître comme des échecs, humainement parlant, selon la logique humaine, plus on gagne en succès, en puissance, selon la logique spirituelle. Et nous avons un très bon exemple. C'est à sa mort à la croix que Jésus-Christ a vaincu le diable. Ce n'est pas en faisant les miracles, ni en prêchant très bien, mais c'est en mourant à la croix. Colossiens 2, 14, 15 nous le dit. C'est à la croix qu'il a déchiré les documents qui nous accusaient. C'est à la croix qu'il a traduit les dominations en spectacle. Il les a vaincus, il les a battus. C'est à la croix, bien-aimé. C'est là où on pensait qu'il était en défaite. C'est là qu'il était glorieux. Amen. On a besoin de comprendre ces choses. Ne cherchons pas à prouver quoi que ce soit. Laissons le Seigneur faire. Plus notre être extérieur, ce n'est pas seulement le côté physique, mais tout ce qui est logique humaine. Plus selon la logique humaine, les gens nous humilient. On peut entrer dans un endroit où les gens ont complété quelque chose pour nous humilier. Acceptons cette humiliation. Allons encore plus loin dans l'humiliation. Plus on fait ça, plus dans le spirituel, des grandes choses Dieu est en train d'accomplir. Ne cherchons pas à résister aux méchants. Laissons Dieu faire. Croyons et avançons avec Dieu, même si ce que nous faisons est contraire au raisonnement humain, mais du moment que c'est le fruit de l'humiliation et de l'humilité, la Bible dit, si notre extérieur est brisé, humilié, l'intérieur est en train de se renouveler. Amen. C'est ça, bien-aimé. L'extérieur va nous apporter les mauvaises nouvelles. Il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus ceci. Tu vas être chassé. Ça, c'est l'extérieur. Plus notre extérieur est en danger, plus notre intérieur devient fort. Maintenant, si on n'a pas la foi, on va être déstabilisé et on ne va pas vivre cette vie éternelle, cette puissance éternelle. On sera dans la sécheresse. Mais si on a foi, dès qu'on voit l'extérieur en danger, l'extérieur s'affaiblir, on doit se dire, Dieu est en train de travailler à l'intérieur. Dieu a besoin de nous presser pour sortir le jus. C'est comme un chiffon rempli d'eau. Pour sortir cette eau, on est obligé de presser le chiffon. Et l'eau sort. Et Dieu va nous presser pour sortir la vie éternelle. Parce que la vie éternelle est incompatible avec la gloire de la chair. Ça ne va pas ensemble. C'est incompatible. Là où nous pensons que nous avons échoué, notre discours n'a pas été efficace, c'est là que Dieu va se servir de ce discours inefficace pour sauver la multitude. Nous ne devons pas nous fier à ce que notre intelligence considère comme grand. Nous devons nous fier à la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui fait la différence. Ce n'est pas notre intelligence, ce n'est pas notre extérieur qui fait la différence, c'est la puissance de Dieu. Faisons confiance. Avoir la véritable foi, ça va ensemble avec le fait de paraître bête et illogique vis-à-vis des humains. Voilà, puisque la foi en Dieu, ce n'est pas quelque chose de logique, c'est quelque chose de spirituel et d'intérieur. Et cette foi produit des œuvres plus grandes que tout ce que peuvent faire beaucoup de gens avec leur extérieur. Mais lorsqu'on a foi, eh bien Dieu agit puissamment. Et même si notre extérieur semble échouer, notre intérieur est en train de gagner. Souvenons-nous de cela, bien-aimés. Nous avons la vie éternelle et cette vie éternelle se manifeste par des pressions successives de Dieu. Comme quand Dieu presse successivement. C'est comme ça que ça sort. Il a dit à Pierre, quand tu seras grand, quelqu'un d'autre te mettra la ceinture et t'amènera où tu ne voudras pas. C'est ça la vie éternelle. Donc, pression successive et la vie jaillit. La vie jaillit. Et nous-mêmes, on est étonnés, on devient observateurs de l'action du Seigneur. Les gens avaient cru que Étienne, je crois que quand Étienne est mort, la Bible dit que les chrétiens l'ont entouré, ils ont pleuré Étienne. Ah, mais Dieu a suscité un plus grand corps, Paul. Et nous savons ce que Paul a fait, bien-aimé. Donc Étienne a été pressé afin que Paul sorte. Et on a vu ce qu'a été Paul. C'est ça la réalité. Acceptons d'être pressés successivement. Vive la mort successivement afin que la gloire de Dieu agisse, se manifeste. Et vive la mort, ça peut être le fait d'accepter de subir des souffrances à cause des choix bibliques, à cause des choix liés à la vérité. On subit des souffrances. C'est ça les morts qu'on subit. Donc injustement on subit, mais Dieu agit glorieusement. Le Christ est mort injustement, humainement parlant, mais c'était la volonté de Dieu afin que la résurrection se manifeste et que le salut de l'humanité se manifeste. Comprenons ces choses-là. Dieu utilise les circonstances pour nous presser afin de sortir l'éternité. Et soyons humbles vis-à-vis de lui. ne soyons surtout pas découragés. Nous avons la vie éternelle. Souvenez-vous de l'exemple de la pile. Souvenez-vous de l'exemple du sucre. Nous avons cette vie éternelle qui ne s'éteint pas, qui produit tout le temps. Et lorsque le diable torche quelqu'un devant nous pour dire, il met la lumière sur quelqu'un pour dire, il est trop mauvais pour changer. Souvenons-nous que nous avons la vie éternelle en nous. Nous avons une puissance inépuisable qui peut sauver le plus vil des pécheurs. Ne régressons pas dans l'intercession pour cette personne. Même si notre chair est choquée de ce qu'on a entendu cette personne faire, que notre esprit se dise, ben, la vie éternelle est suffisamment éternelle pour sauver n'importe quel méchant sur la terre. C'est comme ce fameux sucre, il est suffisamment puissant pour sucrer même les océans. Voilà. Donc même quand on nous présente quelqu'un avec un océan de méchanceté, soyons confiants que la vie éternelle peut toujours être accordée à cette personne parce que Christ a tout accompli à la croix. Donc n'oublions pas la leçon d'aujourd'hui. 1. Nous avons la vie éternelle. 2. Cette vie se manifeste par des pressions, par des morts successives. Acceptons cette façon-là de Dieu de manifester cette vie éternelle et nous verrons sa gloire. Amen. Seigneur, merci de nous aider à accepter ta façon de travailler, une façon qui déshonore la chair, mais qui produit la puissance éternelle, la vie éternelle. Nos logiques ne sont souvent pas respectées, mais lorsque ta logique est respectée, nous sommes comme morts, mais la vie éternelle vient tout de suite. Une vie spirituelle puissante pour produire de grandes choses. Merci Seigneur de nous aider à reconnaître parfois qu'on est faible, à reconnaître qu'on ne sait pas quelque chose, qu'on est incapable dans telle chose encore, dans telle situation, afin que seule ta vie fasse la différence, Seigneur. Que nous apprenions à te faire confiance et non pas à faire confiance à notre éloquence, à notre force, à notre intelligence, mais faire confiance en ta bonté, à l'éternité que tu as mis en nous, qui peut changer tout, car tout est possible à celui qui croit. Merci, Seigneur, de nous aider vraiment à entrer dans cette révélation comme notre frère Jean était, l'apôtre Jean était entré dans cette révélation. Nous voyons sa description, c'est un homme de paix. Il était attaché à toi parce qu'il respirait de cette vie éternelle. Il était conscient de cette vie éternelle. C'est pourquoi il en parle dans ses épîtres, il en parle dans son évangile. Il avait la vie éternelle, il savait que cette vie était en lui et que les situations extérieures ne pouvaient pas enlever cela. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Seigneur, que cette vie éternelle que nous avons nous donne pleine assurance dans notre marche et dans nos attentes. À toi la gloire, la louange. Au siècle des siècles, nous nous attendons à toi pour toutes choses. Au nom de Jésus.